Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Psychogénéalogie, guérir les blessures familiales et se retrouver soi est un ouvrage de psychologie transgénérationnelle signé Anne-Ancelin Schuttenberger. Figure associée au développement de la psychogénéalogie en France. Le livre présente une approche selon laquelle certains traumatismes, secrets, exclusions, deuil, mal élaboresse ou loyauté familiale peuvent peser sur les descendants sans être clairement identifiés. Son objectif consiste à aider le lecteur à relire son histoire familiale afin de mieux comprendre des répétitions affectives, corporelles ou existentielles. Dans la continuité de Aïe, mes aïeux, ce volume propose une présentation accessible des notions centrales de la méthode, notamment le génosociogramme, le syndrome anniversaire et la transmission inconsciente. Le propos relève davantage de la psychologie clinique et exploratoire que du manuel scientifique strict. Il combine explications conceptuelles, orientations thérapeutiques et exercices de réflexion personnelle pour inviter chacun à distinguer héritage familial et choix de vie propre. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le génosociogramme comme outil de lecture des répétitions familiales. Un des apports centraux du livre repose sur le génosociogramme, forme enrichie de arbres généalogiques. Il ne se limite pas au nom, date de naissance et filiation. Il intègre des informations affectives, sociales et événementielles mariage, rupture, décès, accident, migration, maladie, exclusion, métier. Secret supposé ou place particulière dans la fratrie. Cette représentation sert à rendre visibles des régularités qui restent souvent dispersées dans la mémoire familiale. La méthode permet par exemple de repérer des répétitions de prénoms, de dates, de situations conjugales ou de destin social. Pour Schuttenberger, ce travail graphique produit un effet clinique parce que le sujet cesse de percevoir ses difficultés comme isolées ou purement individuelles. Il peut les replacer dans une chaîne de transmission, ce qui ouvre une distance critique. Le génosociogramme ne prouve pas mécaniquement une causalité, mais il organise une enquête. Sa valeur tient à la confrontation entre faits, souvenirs, silences et émotions. Le livre insiste ainsi sur une pratique active, interroger les proches, collecter des données, accepter les zones inconnues, puis observer comment certaines places familiales ont pu orienter des choix personnels. Deuxièmement, les loyautés invisibles et le poids psychique des dettes familiales. Le livre accorde une place importante aux loyautés invisibles, notion qui désigne les fidélités inconscientes envers la famille ou certains ancêtres. Ces fidélités ne prennent pas toujours la forme de décisions explicites. Elles peuvent se manifester par des empêchements, des échecs répétés, une culpabilité diffuse ou une difficulté à dépasser le destin social et affectif de la famille. Schuttenberger présente la personne comme inscrite dans un réseau de liens où circulent des attentes implicites, des dettes morales et des interdits tacites. Dans cette perspective, réussir, quitter un milieu, choisir un partenaire ou rompre avec un schéma ancien peut être vécu comme une trahison, même si rien ne le formule ouvertement. Le travail psychogénéalogique cherche donc à distinguer fidélité et assignation. Reconnaître une dette symbolique ne signifie pas rester soumis à cette dette. Le livre propose de comprendre ce qui a été transmis afin de pouvoir honorer une histoire sans la répéter aveuglement. Cette idée donne au texte sa dimension thérapeutique, la libération ne passe pas par le rejet de la famille, mais par une clarification des liens qui empêche le sujet de vivre sa trajectoire propre. Troisièmement, le syndrome anniversaire et la sensibilité aux dates familiales. Le syndrome anniversaire compte parmi les notions les plus connues associées à Anne-Ancelin Schuttenberger. Dans le livre, il renvoie à des récurrences de symptômes, accidents, crises ou événements significatifs autour de dates liées à des membres de la famille. Le principe ne consiste pas simplement à remarquer des coïncidences calendaires, mais à explorer le rapport entre mémoire, affect et temporalité familiale. Une date de décès, de naissance, de perte ou de rupture peut devenir un repère chargé, parfois transmis sans récit explicite. Le sujet peut alors traverser une période de fragilité sans en comprendre le sens apparent. Cette hypothèse invite à examiner les calendriers familiaux avec prudence, en tenant compte des faits vérifiables et de la résonance émotionnelle. Le livre présente cette attention aux dates comme un outil de questionnement, non comme une loi universelle. Sa force clinique réside dans la possibilité de relier un malaise à une histoire, oubliée ou tue. Sa limite tient au risque de surinterprétation, toute coïncidence ne signale pas une transmission. Une lecture rigoureuse doit donc maintenir un équilibre entre écoute symbolique et prudence factuelle. Quatrièmement, guérir les blessures familiales par reconnaissance plutôt que par effacement, le titre annonce une visée de guérison. Mais le livre ne promet pas une suppression simple des souffrances familiales. La guérison y passe par la reconnaissance, la mise en mots et la réappropriation. Les blessures concernées peuvent être des deuils non élaborés, des violences, des abandons, des secrets, des faillites, des hontes ou des ruptures de filiation. Selon cette approche, ce qui reste non dit ne disparaît pas forcément, cela peut continuer à structurer les relations, les peurs ou les choix des descendants. Le travail proposé consiste à regarder ces éléments sans réduire la personne à son héritage. Les exercices et pistes pratiques invitent à rassembler des informations. À identifier les zones de silence, à observer les émotions liées à certains ancêtres et à replacer chaque membre dans son contexte. Cette méthode a une dimension éthique, reconnaître les souffrances ne revient pas à accuser les générations précédentes, mais à comprendre les contraintes dans lesquelles elles ont vécu. La finalité est de déposer une charge psychique héritée, afin de décider plus consciemment ce qui mérite transmission et ce qui doit cesser. En dernier lieu, une approche puissante mais discuteuse sur le plan scientifique, le livre se situe dans un champ qui suscite un intérêt durable mais aussi des réserves. Sa force tient à sa capacité à donner une structure à des expériences souvent confuses, répétitions de destin, impressions de dette, symptômes liés à des silences familiaux. Sentiment de ne pas occuper sa propre place. Pour de nombreux lecteurs et praticiens, cette grille rend possible un travail de sens et facilite la parole sur des zones familiales difficiles. Cependant, plusieurs notions de la psychogénéalogie, notamment le syndrome anniversaire ou certaines lectures de coïncidence, restent discutées selon les critères de validation scientifique. Le risque principal serait de transformer des correspondances partielles en certitudes causales. Le livre gagne donc à être lu comme un outil clinique et symbolique plutôt que comme une démonstration expérimentale. Une lecture équilibrée consiste à utiliser ces propositions pour formuler des hypothèses, ouvrir une enquête familiale et enrichir une réflexion thérapeutique. Sans conclure trop vite, cette prudence ne diminue pas forcément son intérêt. Elle permet de préserver la richesse de approche tout en évitant les dérives interprétatives. En conclusion, ce livre convient aux lecteurs qui souhaitent comprendre comment une histoire familiale peut influencer la vie psychique, les choix affectifs, les blocages et certaines répétitions. Il intéressera aussi des thérapeutes, accompagnants ou étudiants en psychologie curieux des approches transgénérationnelles, à condition de le lire avec discernement. Son bénéfice pratique réside dans la mise à disposition de repères concrets, construire un génosociogramme, interroger les dates importantes, repérer les secrets, distinguer loyauté familiale et choix personnel. Son bénéfice intellectuel tient à une idée forte, une personne ne se comprend pas seulement par son enfance individuelle, mais aussi par la place occupée dans une lignée, par rapport à de nombreux ouvrages de développement personnel familial. Celui de Schutzenberger se distingue par son ancrage dans une pratique clinique identifiée et par la cohérence de ses concepts transgénérationnels. Par rapport aux livres académiques, il reste plus accessible, plus orienté vers l'usage personnel et moins centré sur validation empirique. Sa singularité vient de cette position intermédiaire assez structurée pour guider une enquête familiale, assez ouverte pour accueillir la dimension symbolique des transmissions. Il faut toutefois éviter une lecture déterministe. Le meilleur usage consiste à en faire un point de départ pour questionner son histoire, non un système fermé expliquant toute difficulté par les ancêtres. Si vous souhaitez soutenir Anne Anselin Schutzenberger, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.